Bon, écoutez, moi j'en peux plus. Avec nos collègues, ça fait 30 ans qu'on vous dit que ça pue du cul notre histoire. On sait plus comment vous le dire.
CO2, mon amour.
De toute façon, ça va être vite réglé. Hein. On n'arrive pas à limiter le réchauffement climatique de 1,5 degré et qu'on continue encore et encore, bon, bah d'ici 2050, vous pouvez rayer de la carte New York, le Bangladesh, la Camargue. La plupart des grands fleuves du monde seront à sec l'été. Ah, c'est sûr que là, vous allez venir chialer, hein, mais ça suffira pas à arroser les champs si on veut nourrir tout le monde. Donc, si on veut se limiter au scénario de 2 degrés, il faut diviser notre niveau de vie par 6.
Denis Chessou.
Qui est chaud ?
Sur France Inter.
Eh oui, qui est chaud? Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 mon amour, le dernier de la saison et aussi le dernier à cette heure-là, car à la rentrée, donc le 1er septembre, je vous le dis déjà, je vous retrouverai tous les dimanches entre 13h20 et 14h. Donc ça, c'est le nouvel horaire, mais ce sera à partir du 1er septembre. Hein, donc CO2 mon amour, le dimanche entre 13h20 et 14h. Ce sera toujours une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature avec Alexandre Chenet à la technique. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Évidemment, il y a toujours une petite humeur, alors en tant que ministre de la Culture éternelle, je tiens à dire qu'elle était belle cette fête de la musique. Tous ces groupes, tous ces jeunes sur les places, dans les rues, sur les estrades, dans les champs, dans les étables, qui massacraient les Beatles, du Juliette Armanet, du Mozart, du John Haddad, ces ados qui se prennent pour Balthazar ou Maître Gims, ces enfants qui jouent de la guitare désaccordée, de la flûte à bec, du pipeau, c'était beau. Hommage donc à tous ces beaux nettoyeurs de silence. Dans la nature, les oiseaux qui fêtent la musique à l'année. C'était planqué, plus un son dans les forêts. Les abeilles arrêtaient leur mielée, les vaches ne donnaient plus de lait, les fleurs étaient tétanisées. Tout le monde attendait que ça passe, comme dans un hall SNCF. Quel bel effondrement pour les tympans, quelle belle fête de la musique pour les ORL. Bon, je plaisante. Évidemment que je plaisante, car une vie sans musique, c'est tout simplement une erreur, c'est un exil, nous disait Nietzsche. Et puis, sur France Inter, quand même, et Radio France, on défend la musique de qualité. Alors, ai-je envie aujourd'hui de vous parler de la France qui a l'écologie au cœur, hein, et qui vient de voter à Bruxelles, en congrès, le renouvellement de la pêche industrielle qui ratisse les fonds, pauvre Blum? Non. Vais-je vous parler de l'EPR à ressouder d'urgence avant même qu'il fonctionne? Et merci d'ailleurs aussi à l'autorité de sûreté nucléaire qui fait son boulot en indépendance. EPR qui va donc péter bientôt le plafond des 12 milliards. C'est formidable, cela dit, faire la manche dans le Cotentin, c'est normal. C'est une blagounette, oui. Alors, vais-je vous aussi vous causer de l'ANSES qui nous dit qu'installer des écoles non loin des champs magnétiques basse fréquence, des lignes à haute tension, c'est peut-être pas la meilleure idée pour la santé des enfants, hein? Par précaution, s'abstenir, nous rappelle-t-elle. On a évoqué d'ailleurs ce sujet-là il y a une dizaine d'années déjà dans CO2, mon amour. Eh ben non, mais heureusement, moi je me console en écoutant sur ma chaîne la publicité pour la Jaguar 1 électrique, SUV présentée comme écologique, qui roule à 200 à l'heure avec 300 chevaux sous le capot. Et avec nos impôts, bah, y a une aide de l'État de 6000 euros pour le regagnant qui l'achètera. Elle est pas belle notre écologie, hein? Alors, heureusement, rien, jamais n'arrêtera la vie. Pluie, mitraille de grêlons, ouragan, asphalte, béton, feu de brousse, feu guerrier, toujours par mille fissures, rejaillira la vie. Renaîtront la plantule patiente, le champ de l'eau qui court sauvage ou souterraine, le tenace coquelicot, d'ailleurs signé toujours, hein, nous voulons des coquelicots. Et sous les cris d'une foule en demande, il y a des sanglots de poésie. Ici, bien sûr, tout n'est pas beauté, calme et volupté, on le sait. Soleil au zénith, fête de la musique, solstice d'été à Stonehenge, en Angleterre, aligné sur le mouvement du soleil. Brûlante perspective, chaudière infernale du climat, à ressouder également, mais là, à part s'adapter vite fait, on sait pas forcément bien faire pour calmer l'affaire. Oui, solstice superbe de l'été, bascule de la lumière qui galope, alors les mots MAUX, et puis les mots, surtout MOT qui viennent, comme Cyrano, comme ça moi je vous les jette, je vous les offre en touffe, en amour, sans les mettre en bouquet, sans trier, comme ils arrivent. Car c'est dans les mille recoins de ce désordre-là que se tapit la vie et les mille sourires des feux de la Saint-Jean. Bel après-midi à tous. Alors, vous avez le cœur qui balance entre résistance, utopie et passage à l'action. Eh ben, ça tombe bien, on a tout ce qu'il vous faut aujourd'hui autour de cette table avec, une nouvelle revue et puis deux ouvrages. Bonjour Pablo Servigne.
Bonjour.
Alors Pablo Servigne, vous êtes avec nous, vous revenez avec Yvan Saint-Jour, qui est un homme de papier, qui avait donc créé la Maison écologique, qui avait créé Kaizen. Et là, vous revenez avec Yggdrasil. Alors, on va détailler cela, mais Yggdrasil, qu'est-ce que c'est par rapport à l'effondrement qui est votre joyeuse marotte.
Mais Yggdrasil, c'est un magazine, un beau magazine de 140 pages ouais. qu'on sort maintenant là.
Là, c'est la première, vous en parlez la première fois.
C'est le numéro 1, ouais. Il sort dans 4 jours, le 26, dans les kiosques. Et c'est une manière de faire du lien entre tout ce qui émerge en ce moment sur les collapsos, l'effondrement, les catastrophes, etc. Mais c'est, on essaye de pas le faire déprimant, parce que les nouvelles sont quand même difficiles à digérer, donc faire du lien aussi entre les écolieux, les associations, les personnes, les auteurs, tout ce qui émerge autour de ça.
Voilà, vous avez pas voulu l'appeler Effondrement Magazine ou Collapsologie Magazine, ça le faisait pas ça.
Non, oh, on y a pensé, mais...
Ouais, non, quand même, vous êtes dit, hein, Yvan Saint-Jour, non, c'est pas le...
Ouais, bon, on avait un titre au début, le code secret, c'était Joyeux Effondrement, on le trouvait un brin cynique. Oui. Alors on a choisi Yggdrasil, Y2GDRASIL, totalement facile. Imprononçable, on peut pas s'en souvenir, et comme ça, au moins, c'est beaucoup plus cool.
Mais bon, on reviendra sur ce merveilleux arbre donc nordique, entre autres choses. Cher Alain Grandjean, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Alain Grandjean, vous avez sorti donc Agir sans attendre aux éditions des Liens qui libèrent. Là, alors, et non pas l'inverse, ça c'est pas attendre sans agir, parce que ça on l'a fait beaucoup, attendre sans agir. Non, là c'est vraiment Agir sans attendre, notre plan pour le climat. Alors vous êtes quand même un docteur en économie, vous êtes le président de FNH, donc la Fondation Nicolas Hulot pour l'Homme et la Nature. Qu'avez-vous voulu dire dans cet ouvrage ?
Qu'il est temps d'investir massivement et que c'est possible et qu'on a la possibilité dans les temps qui courent de rompre un peu avec les dogmes budgétaires européens.
Voilà. Dans l'économie, parce que l'on aime bien aussi mettre les mains dans le cambouis, et on va prendre une belle bouffée, une belle élévation aussi avec vous, Éric de Kermel. Bonjour Éric.
Bonjour.
Alors Mon cœur contre la terre aux éditions Erol. Là, on va partir avec une femme dans une vallée qui est superbe, celle des Hautes-Alpes, qui s'appelle la vallée de la Clarée. Et là, on va prendre de l'air, entre autres choses, et puis aussi se ressourcer intérieurement.
Voilà, en fait, nous sommes de plus en plus connectés, de moins en moins reliés, de moins en moins reliés à la nature, de moins en moins reliés à nous-mêmes. C'est le problème qui est posé à Anna, mon héroïne, donc qui va quitter la grande ville pour pouvoir retrouver sa vallée natale et retrouver ce lien notamment avec la nature, qui sera le chemin vers elle-même aussi.
Voilà, donc une vallée qui nous est extrêmement chère, on en reparlera. Donc vous avez le menu, tout va bien. Une petite chanson, ça vous dit ? Allez, c'est parti.
Ça n'engage que nos prénoms dans mes graves articulés. C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. Je sais que t'as dit non, frayé par mes façons. Mais quand même, cette chanson est une pensée, moi qui sais te trouver. Viens par grand froid de ta bouche la buée. C'est comme si ce mec, tu me mets plus fort, baby. C'est comme si ce mec, tu me mets encore. C'est comme si ce mec, tu peux presque le replacer. En morceaux, tu ne sais pas me regarder. Et ma voix de chevalier rend justice à ma beauté. Plus douce et tranchante quand je me raconte. Ma langue est le seul corps qui vraiment compte. C'est comme si on s'aimait. Thank you.
Ça vous l'est pas reconnu? Ben si, quand même, sur France Inter, comme si on s'aimait. C'était Chris dans CO2 Mon Amour.
CO2 Mon Amour.
Plus rien. Comment ça, plus rien?
Denis Chessou.
Vous voulez dire la fin du monde?
Sur France Inter.
Deux ouvrages en fait, et une revue avec Yggdrasil. Alors Yggdrasil, on a envie quand même, Pablo Servigne. Là, vous êtes venu prendre un petit peu de chaleur. J'espère que dans votre Diwa que vous aimez beaucoup, donc dans cette drôme, vous aurez un peu moins chaud dans les jours qui viennent. Mais enfin, c'est pas forcément sûr. Hein, c'est pas gagné quand même. Yggdrasil. Alors oui, donc ce nom un peu imprononçable. Là, vous aimez bien vous mettre un petit peu des barrières et des challenges. Ça va être un trimestriel de 12 numéros. En fait, ça va être ça, Pablo.
Voilà, on est comme les organismes vivants, on a une naissance, une vie et une mort. Et on a programmé notre autodestruction pour dans 3 ans, en 2022, au printemps.
Oui, c'est cohérent, quoi.
12 numéros, voilà. Comme ça, on sombre pas dans l'hubris, la croissance infinie, ouais. On se limite. C'est très difficile d'ailleurs en tant que co-rédac chef avec Yvan de caser tout ce qu'on a envie. Il y a tellement de choses qui émergent en ce moment.
Ouais.
Et voilà, donc on s'est dit, si on arrive à bien s'ancrer... Yggdrasil, c'est l'arbre-monde.
Alors c'est l'arbre-monde, c'est un frêne celui-là, non?
C'est un ouais. Oui, il paraît que c'est un frêne, donc dans la mythologie nordique. Ouais. Et le frêne, c'est celui qui a accompagné vraiment les premières sociétés humaines ici. Enfin, en Europe, c'est vraiment un arbre sacré. Et là, il est malade. Il est en train de mourir. En Europe, il a une maladie.
Ouais,
il est en train
fait.
De s'effondrer.
Ouais.
Donc voilà, on a pris cet arbre-monde qui relie le ciel et la terre comme symbole. Si on arrive en tant qu'arbre à s'épanouir dans cet écosystème un peu aussi mal en point de la presse papier et de la presse indépendante, eh bien, si on arrive à créer de l'abondance en 3 ans, on le redistribuera à notre écosystème, à nos alliés, à nos amis, comme un arbre qui meurt, se décompose et composte pour... Ouais. Redonner ses fruits et ses briques élémentaires à l'écosystème.
Et alors, comme dans cette émission, on n'aime pas du tout les jeux de mots, vous avez écrit « Larguer les samars ». Alors, les samars, on va le rappeler tout de suite, ce sont les fruits du frêne qui ont une petite aile, hein, donc, pour s'envoler. Donc, c'est ça, Yvan Saint-Jour.
Ouais, voilà, c'est ça. Alors, ça ressemble un peu... On connaît plus les fruits de l'érable qui fait un hélicoptère.
Bien
quand
sûr.
On est enfant, vous savez, Denis, on le lance en l'air et puis cette tournicote. Et ben, c'est la même chose, mais avec une seule aile. Et donc, « Larguer les samars », effectivement, ça, c'est l'édito qu'on a co-signé avec Pablo. Pour dire, ben voilà, on est prêt, on largue les graines pour pouvoir essayer de traverser cet effondrement qui a commencé.
Alors justement, Pablo Servigne, donc ce n'est pas un magazine sur les catastrophes. On est plutôt sur les résistances, sur les résiliences. C'est-à-dire qu'on a ce, pour reprendre les mots de Gramsci, on a ce monde qui se meurt, un autre monde tarde à apparaître dans le clair-obscur. C'est peut-être là aussi que surgissent les monstres. Donc ça, évidemment, faut les éviter. Mais c'est pas parce que l'on nomme la catastrophe que forcément la catastrophe va arriver, quoi. Mais on est quand même sur des suites,
ben,
sur des bouts d'enfants. Voilà.
Oui, c'est ça. On est parti du principe qu'on avait acté les catastrophes. Ça y est, c'est fait. On s'adresse aux personnes qui ont envie d'aller de l'avant, de tenir le coup, de vivre avec les mauvaises nouvelles, d'inventer des nouveaux horizons. Et il y a 3 axes, en fait. C'est 1, les luttes, les résistances, donc soutenir la vie. 2, c'est créer des alternatives. Et 3, c'est un changement de conscience profond. Et si il manque ces 3 pieds d'un tabouret, s'il manque un des 3 pieds, on tombe. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du lien entre ça. On n'est pas soit activiste, soit un changement de conscience, soit dans juste les créations d'alternatives. On a besoin des 3. On a besoin des zadistes, on a besoin de ceux qui inventent des éco-villages, etc. Et on a besoin des gens qui sont dans les philosophes, je sais pas moi, les spiritualités, etc., pour repenser notre rapport au monde. On a besoin des 3.
En regardant donc cette revue, on se dit que demain, on aura davantage besoin de courage que d'espoir.
Oui, souvent, on attend l'espoir. Espoir, c'est esperar, c'est en espagnol, c'est l'attente. C'est très passif comme mot. Et ce dont on s'est rendu compte avec un petit peu les collapsos, on a écrit sur cela dans notre dernier livre, Une autre fin du monde est possible, c'est que on a plutôt besoin de courage, parce que toutes ces mauvaises nouvelles font peur. Et la peur, elle a beaucoup de défauts, mais elle a une qualité, c'est qu'elle nous montre le chemin du courage. Et quand on se met, quand on trouve le courage, on se met en action. On se met en action ensemble, et quand le collectif se met en route, là l'espoir revient.
Mais à condition quand même d'avoir une histoire, de raconter une nouvelle histoire autre que consumériste.
Oui, voilà, c'est ça. L'effondrement, c'est une histoire, c'est un récit, l'effondrement futur. C'est un récit qui est possible, mais qui a le défaut de fermer les horizons. On peut se raconter, si on reste stagné dedans, on peut se raconter tout est foutu en fait. Ouais. Et le tout est foutu est très toxique. On peut pas se permettre de dire ça, ni à nos proches, ni à nos amis, ni à nos enfants, ni à nos lecteurs. Donc rester un pied dans les mauvaises nouvelles, un pied dans les bonnes nouvelles, c'est tout le temps faire l'effort de réinventer des nouveaux horizons, réinventer des possibles. C'est difficile, c'est vraiment un effort d'imagination. Et c'est ça qu'on essaye de faire à travers nos livres et nos publications.
Être dans une lucidité, on va dire, active. Comment on fait pour éviter, on va dire, les messies et les marchands d'apocalypse, tout en sachant que l'apocalypse, en grec, c'est le dévoilement. Lorsqu'on regarde la superbe tapisserie dans le château d'Angers de l'apocalypse, on se rend compte qu'aussi, ça veut dire la révélation. Mais comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, apocalypse, ça n'a pas du tout le même sens. Donc, comment on fait pour éviter donc tout cela qui est derrière?
Ça va être dur de l'éviter. Je pense qu'il y en aura toujours des marchands, il y en aura toujours des...
Parce que certains vous disent que vous êtes marchands d'apocalypse, vous le savez.
Oui, enfin, bon. Oui. Mais notre démarche a été d'être rationnel déjà. Moi, je viens du monde de la science, donc on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain, même si la science a ses défauts, elle nous aide vraiment à penser.
Puis il faut économiser l'eau, donc ne jetez pas le bébé non plus, ni l'eau. Voilà.
Et on a, ça c'est la collapsologie, la collapsologie, le logos, comprendre, c'est très important. Et puis il y a la collapsosophie, la sagesse, et ne pas jeter non plus toutes les spiritualités sous prétexte que certaines religions nous ont fait du tort. On a notre histoire ici en France, on est un peu fâché avec les religions, mais il y a des choses aussi à aller explorer là-dedans. Donc moi je suis scientifique.
Non, mais les gens peuvent être fâchés avec la religion sans forcément être fâchés avec la spiritualité.
Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Moi je suis scientifique, je viens d'un milieu très athée, rationnel, et je voudrais explorer ces spiritualités et devenir un peu compétent là-dedans, c'est un grand mot, pour pouvoir naviguer dedans, mais pas rejeter tout en bloc, sinon on n'arrivera pas à s'en démêler, et on sera beaucoup plus sujet à des marchands de rêves je sais pas quoi.
Alors, quelqu'un aussi qui est dans l'action d'une manière différente, c'est Alain Grandjean. Alors Alain Grandjean, donc docteur en économie, je le rappelle, président de la Fondation pour la nature et l'homme, celle de Nicolas Hulot, qui est le président donc président. Donc qu'est-ce qu'il a comme titre?
Président d'honneur.
Président d'honneur. Voilà, absolument. Agir sans attendre au lien qui libère. Alors là, on met les mains dans le domaine économique. Les constats, on le connaît. Ère glaciaire jusqu'au milieu du 19e siècle, on a eu 5 degrés de climat donc supplémentaire, parfait. Mais aujourd'hui, on est sur une route à 3, 4 degrés supplémentaires d'ici la fin du siècle. On ne sait même pas s'il ne sera pas avant. Voilà, il y a encore quand même beaucoup d'incertitudes, mais la ligne est malheureusement tracée. Changement drastique, vous le rappelez, et ce qui est vraiment le cœur du bouquin, c'est de cesser de chérir la camisole de la règle budgétaire qui vous semble dépassée. Racontez-nous.
Alors, en vitesse, il y a beaucoup d'appels au changement de comportement individuel. Quand on fait des petits calculs de coin de table sur l'empreinte carbone d'un citoyen normal, un moyen, on va dire ça comme ça, normal, moyen, bref, chacun d'entre nous, c'est extrêmement compliqué, voire impossible, de réussir à réduire suffisamment cette fameuse empreinte carbone d'ici 2050, c'est-à-dire dans 30 ans, il faut la diviser par 6, on va dire ça comme ça, en ordre de grandeur, si la France veut être neutre carbone. Ce genre de calcul est vrai aussi au niveau mondial. Donc l'idée, c'est que il y a des changements de comportement qui sont très utiles, par exemple le changement d'alimentation pour réduire les émissions de méthane.
C'est à peu près un quart du problème, hein, voilà, si on regarde notre assiette.
Il y a d'autres changements de comportement très utiles qui sont la réduction de notre température de consigne dans les logements et ainsi de suite. En fait, le fond du problème, c'est que le CO2, mon amour.
Oui, toujours.
c'est pas vraiment nous qui les mettons, c'est nos machines préférées. Ouais. C'est nos équipements, c'est nos voitures, c'est nos chaudières, etc. Bon. Et là, un raisonnement économique tout à fait simple et élémentaire dit qu'il va falloir changer toutes ces machines. Alors, en français, de l'économie, ça s'appelle investir. Et il se trouve que l'Europe, là je parle de l'Europe et puis la France, n'investissent pas du tout assez en ce moment. Et l'investissement public européen est en train de s'effondrer depuis la dernière crise financière. Bon. Alors, il y a plein de raisons, mais il y en a une sur laquelle on insiste beaucoup dans le livre. Je ne l'ai pas écrit tout seul, hein, j'ai écrit avec Kevin Puisieux et Marion Cohen. C'est que le calcul du déficit public est une règle maastrichtienne bien connue, donc une règle du traité et des traités européens.
Celle des 3% et de ne pas dépasser 60% du PIB.
Alors il y a deux règles, il y a une règle de déficit, 3% du PIB, une règle de dette publique,
60% de la dette.
De la dette, mais la règle du déficit, je ne vais pas embêter tout le monde avec ça, mais ça prend une seconde. C'est un calcul qui empile d'un côté les recettes et de l'autre côté des dépenses, qu'elles soient des dépenses courantes ou des dépenses d'investissement. Alors moi je suis chef d'entreprise depuis très très longtemps et je sais que quand on me colle une règle comme ça, ce qui n'est pas le cas, les entreprises ne sont pas dans ce genre de règles, je vais forcément supprimer d'abord les grandes dépenses d'investissement parce que c'est beaucoup plus facile pour tenir mes règles budgétaires. Donc c'est une règle stupide, ça a été d'ailleurs dit et redit plusieurs fois, c'est une règle qui a d'ailleurs en règle générale pas été respectée autant que ça, notamment dans la dernière crise financière, et très particulièrement, il y a une procédure qui s'appelle la procédure de déficit excessif, qui n'a jamais conduit à des sanctions. Alors aujourd'hui, elle est affichée comme
un... Juste un petit chiffre, pardonnez-moi Alain Grandjean. Donc les États-Unis, ils en sont à 170% donc du PIB, enfin de leur dette.
Alors, la dette publique américaine est supérieure à 100%. La dette publique japonaise est très supérieure.
250%.
Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'économistes, et dont Olivier Blanchard, qui était l'ancien chef économiste du FMI, qui nous dit, c'est vraiment vu le niveau très très bas des taux d'intérêt, qui sont même négatifs en ce moment, c'est le moment d'investir. Donc il y a vraiment une opportunité macroéconomique évidente en Europe, puisque la situation économique n'est pas bonne, d'investir, mais pas n'importe comment. Il ne s'agit pas de refaire des ronds-points, il ne s'agit pas de refaire des routes et des autoroutes, il s'agit justement maintenant de faire les investissements dont on a besoin pour réduire considérablement notre empreinte carbone.
On rappelle que sur les à peu près 660 000, je crois, ronds-points européens, la France en a la moitié.
Donc il s'agit de faire quoi? De la rénovation thermique des bâtiments publics, il s'agit d'aider les ménages à faire de la rénovation de leur logement. Je redis, c'est bien de dire à tout le monde de faire des économies de chauffage, mais si les plus défavorisés d'entre nous crèvent de froid, ont des maladies parce qu'ils n'arrivent plus à chauffer, parce que le pétrole coûte trop cher et qu'ils sont chauffés au fioul, il y a encore 4 millions de logements chauffés au fioul en France, c'est énorme. Donc le but c'est de les changer, sauf que ça coûte de l'argent à tout le monde. Donc l'idée générale du livre c'est de dire, sur ces investissements-là, ceux-là précisément, c'est-à-dire ceux qui permettent de réduire l'empreinte carbone ou qui permettent de réduire l'empreinte écologique au sens plus large du terme, à ce moment-là, on peut changer la dite règle précédente pour permettre à ces investissements de se réaliser, mais très vite. Donc c'est pour ça que le titre s'appelle « Agir sans attendre », parce qu'on n'a plus que 30 ans, c'est-à-dire très peu. Alors certains d'entre nous considèrent que c'est déjà trop tard, moi je crois pas. Je crois juste qu'il faut se bouger, qu'il y a une très forte mobilisation, que l'Europe est en train de se rendre compte, les équipes politiques sont en train de changer, et donc je crois vraiment, il y a des programmes politiques, notamment chez les Verts allemands, qui sont pas... c'est des Allemands, hein. Donc ils sont très sensibles aux règles budgétaires qui vont dans le sens de ce que je dis ici. Donc je crois qu'il y a une très belle fenêtre de tir, si je veux employer ce terme, pour faire ceci.
Est-ce que vous avez des passerelles avec Pablo Servigne, donc sur entre effondrement d'un côté, action de l'autre? Parce que les constats, vous avez à peu près les mêmes constats sur le climat et sur la biodiversité.
Oui, puisqu'on est scientifique de formation. Donc en gros, on est tous complètement convaincus du fait que la suite de l'affaire, la suite des événements, c'est des effondrements locaux généralisés. On est tous convaincus, je crois, que les grandes voies de solution sont de l'ordre de la coopération, de l'entraide, comme dit Pablo. Et après, chacun mène ses priorités là où il les entend. Et moi, c'est vrai que je pense.
Donc, ça va être localement. Enfin, le point commun, il est très là. C'est-à-dire à la fois donc communauté, de nouveau faire avec l'autre pour Pablo. Et ça se passe quand même beaucoup au niveau des collectivités, non, cette affaire.
Oui, mais les collectivités territoriales, il faut qu'elles puissent investir. Aujourd'hui, on est dans des programmes économiques d'austérité. Et deuxièmement, au niveau européen, il faut rétablir des communautés de destin au niveau européen. Donc, on ne dit pas assez, mais les règles européennes aujourd'hui tendent à créer des tensions entre les pays. Elles créent des tensions entre les espaces territoriaux, il y a énormément de compétition. Le système européen, c'est la concurrence d'abord, c'est tout à fait évident. Donc quand on crée des espaces comme je propose qu'on le crée, c'est-à-dire des espaces de réinvestissement, on redonne de l'espoir, on redonne du sens de la communauté, et je pense que ça va exactement dans le même sens que ce que plaide Pablo.
Allez.
Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais, que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et donnèrent étonné tout le monde à lever le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens qui étaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. Que s'est-il passé? J'y comprends rien. Il y avait une ville et y'a plus rien, y'a plus rien qu'un désert de gravats de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve, réveillez-moi, réveillez-moi. Réveillez-moi.
CO2 Mon Amour sur France Inter.
Ça, c'était 1964. Claude Nougaro, il y avait une ville. Et là, oui, évidemment, une concentration urbaine, on le sait les uns et les autres. Les campagnes vont peut-être retrouver aussi une autre vitalité, parce qu'on aura peut-être besoin d'abord de prendre un peu d'altitude avec le réchauffement climatique. Qui sait? Tenez.
Au Sable d'Olonne. Beau projet de renaturation sur des terrains du Conservatoire du Littoral, près du célèbre Puy d'Enfer. Une dune perchée dégradée par un circuit automobile peut retrouver sa continuité écologique jusqu'à la falaise si on supprime 1,5 km de route littorale pour la relocaliser à l'arrière, comme à la pointe du Raz. Mais pas facile de changer ses habitudes, de renoncer à la bagnole sur un petit bout de route dite bleue. Ajouter polémique locale, fusion de communes, désinformation. Le projet d'enquête publique est bloqué par les nouveaux élus. À la place, consultation publique sur la suppression de la route et sa relocalisation, sans présentation de l'intérêt écologique du projet, mais avec défense de la route côtière à risque d'érosion. Oublions Xintia, on peut tout protéger. Les Sablais auraient-ils la tête plus dure que les Bretons? Prouvez le contraire, votez oui à la suppression de la route le 23 juin. Anne-Marie de France Nature Environnement Vendée.
Y croire vraiment au
CO2 mon amour,
au réchauffement climatique de la planète là. Il s'agit pas d'y croire ou pas, hein. C'est pas une question. Il a été prouvé partout que les glaciers, la banquise fondait vitesse grand V. Si ça fond, c'est qu'il fait plus chaud.
Denis Chesson.
Les glaçons dans l'apéro, ils fondent aussi.
Sur France Inter.
C'est pas pour ça que l'apéro se réchauffe. Au contraire, même quand il y a des glaçons dedans, il se refroidit.
La connerie, elle se refroidit, elle. Oh, mais réfléchis un peu, voyons. Et une fois que les glaçons ont fondu, après, ça se réchauffe.
Oui, c'est CQFD. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais c'était important d'avoir donc ce témoignage. Faut quand même le dire dans cette émission sur France Inter. On est là pour faire de la pédagogie, donc nous y tenions vraiment avec Jérôme Boulet. Justement, prenons un petit peu de hauteur. On va se retrouver à 1500 mètres d'altitude avec vous, Éric de Kermel, et donc votre ouvrage, votre fiction aux éditions donc Erol, Mon cœur contre la terre. 1500 mètres parce que nous sommes dans de très très beaux Briançonnais dans les Hautes Alpes, et donc nous allons remonter cette vallée de la Clarée. On va passer à Val-des-Prés, on va passer à Plampinel, endroit où vous avez des pins sur une zone qui est plate. On arrive à Névache. Alors Névache, c'est pas forcément les neuf vaches, non, c'est la Nevasca, c'est-à-dire c'est la nouvelle neige, et c'est là que vous avez planté donc le décor de votre ouvrage, donc Mon cœur contre la terre, avec Anna, et on va dire que c'est un peu la part féminine. Je suis un peu désolé parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes autour de la table, mais ça va être la part féminine de l'émission, qui est une jeune femme qui bosse à l'agence de sécurité sanitaire et qui teste donc des produits que les sociétés chimiques veulent mettre sur le marché. Donc c'est une véritable éco-guerrière, voilà. Et puis donc elle a besoin de retrouver son air de son enfance, et donc vous la plantez dans le bon sens, dans cette fameuse vallée de la Clarée. Vous avez des montagnes qui s'inclinent pour regarder donc la rivière. Et alors cette femme, c'est intéressant parce qu'elle est vraiment entière entre ses vraies convictions. Elle évite un peu les compromis, quoi.
Ben, en tout cas, elle a tenté d'éviter les compromis. Et on est dans la même question qui était celle que posait Pablo tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il existe effectivement un autre monde, mais il est dans celui-ci, nous dit Paul Éluard. Et cet autre monde, il faut d'abord le trouver en soi. Et du coup, en fait, Anna, à un moment, elle a été, comme on peut l'être tous, avec un hamster qui tournait dans la roue de sa tête, et elle a été prise dans un système. Et à aucun moment, elle n'a pu appuyer sur pause. Et en fait, à un moment, elle est rattrapée. Elle est obligée d'appuyer sur pause. Et donc, c'est cette pause qu'elle va faire dans cette vallée pour essayer de reprendre un peu le cap, enfin le gouvernail de son cap, et redéfinir quels sont effectivement ses vrais choix. Parce que le système dans lequel on est, d'une façon générale, c'est un système qui nous nourrit abondamment d'informations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est très connecté, mais qui à tout moment, en fait, n'a pas très envie qu'on s'arrête et qu'on se pose trop de questions. Et du coup, l'enjeu intérieur, l'enjeu personnel, l'enjeu individuel, c'est de pouvoir repasser par cette étape, qui est une étape intérieure, spirituelle, de questionnement. Et c'est ce qu'Anna va essayer de faire en retrouvant sa vallée.
Et c'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons dans cette fameuse vallée de la Clarée, qui est quand même assez exceptionnelle. J'ai pas envie d'envoyer trop de monde, parce que c'est déjà blindé, si vous voulez, au mois de juillet, au mois d'août. Moi, je l'ai connu il y a 40 ans, si vous voulez. Donc, on a eu un combat très intéressant, parce qu'à une époque, il y avait une menace de voie rapide, quand même, sous le col de l'échelle. Et heureusement, là aussi, déjà, action citoyenne, des gens de désobéissance civile, donc ils y ont été, et ça a fonctionné. Voilà, donc il faut aussi se dire que ça marche, mais c'est superbe, quoi.
Ah ben, c'est un endroit merveilleux. Après, je crois qu'on a chacun une vallée quelque part. Et donc l'enjeu, c'est que chacun trouve quelle est sa vallée. C'est pas seulement une vallée intérieure, c'est une vallée effectivement précise, donc un territoire d'où l'on vient. Un lieu qui souvent nous rappelle par notre histoire, par nos grands-parents, par les amis qu'on avait enfants. Dire qu'on a eu un moment des rêves, qu'on a nourri ses rêves, et peut-être qu'à un moment on s'est retrouvé finalement sous le flot d'injonctions qui étaient des injonctions sociétales, qui étaient des injonctions familiales, à être pris plutôt du côté de l'avoir que du côté de l'être. Et du coup, l'enjeu de ce moment-là, dans lequel se trouve cette femme, c'est de reconsidérer les choses un peu autrement, et d'aller retrouver ce chemin et ce chemin individuel. Et c'est vrai que moi qui suis journaliste, et habituellement j'écris plutôt dans La Croix, dans Terre Sauvage, enfin
bien
dans
sûr, dans oui, parce que vous êtes quand même effectivement le patron de Terre Sauvage, hein, des magazines de territoire de chez Bayard.
Voilà. En fait, je me suis dit à un moment qu'il fallait que j'éprouve, enfin que j'essaye d'utiliser la fiction, la liberté de la fiction, la liberté du roman, pour participer d'une autre manière à l'écriture de ce nouveau récit, d'un imaginaire qui soit un imaginaire qui donne envie à ceux qui effectivement sont face aux questions posées notamment tout à l'heure par Pablo.
Mais justement, vous vous rejoignez là complètement, enfin je pense les uns les autres, enfin, Pablo. Donc,
ah complètement, ça me parle, c'est exactement ça qu'il faut faire, retravailler notre imaginaire pour s'imaginer des belles histoires, pas forcément belles en plus, des histoires profondes qui nous touchent et qui nous donnent envie d'aller vers le futur, quoi, et en sachant qu'il y a, comme dit Alain, des problèmes dans la finance, des problèmes en Europe, des problèmes climatiques, des problèmes partout, mais il faut redonner envie. Et la fiction, le cœur, tout ne passe pas par la tête, il faut toucher le cœur absolument. Et une fois que la tête et le cœur sont touchés, ça va tout seul, les mains s'y mettent.
Et alors vous parlez très bien aussi, Éric de Kermel, justement de ce qui nous tiraille tous, parce que on a tous des petits côtés en disant c'est pas grave, il y a telle chose, on tisse des compromis avec le quotidien, et cela produit une société qui voit les oiseaux, les éléphants, les insectes, la barrière de corail disparaître dans un c'est pas grave qui s'exonère de remettre en cause nos modes de vie, donc c'est tout ce fossé là aussi que vous mettez bien en avant, parce que on est tous sur une suite aussi de c'est pas grave, quoi.
Ben c'est certain, c'est-à-dire qu'on a surtout en plus dans notre société actuelle avec des enfants, je veux dire, moi mes enfants, ils ont des grands-parents, des oncles et tantes qui sont tous des urbains, donc du coup la relation à la nature, cette relation sensible à la nature, finalement elle a un peu disparu de leur vie, donc du coup c'est une nature qui est apprise dans les livres, c'est une relation qui est apprise dans les livres, et donc du coup qui n'est plus vécue. Et je pense que moi ce que je perçois, c'est que quand il y a eu l'ensemble des annonces, moi je dis ça fait 15 ans que je suis sur le front de l'information, pour le coup très scientifique, sur l'effondrement de la biodiversité, en particulier avec Terre Sauvage. Moi, à chaque fois qu'il y avait une information qui arrivait, qui était liée à la disparition des rhinocéros ou des oiseaux, j'avais profondément l'impression que c'était moi-même qui était touché. Et donc, du coup, retrouver sensiblement, d'un point de vue personnel, individuel, le sentiment que nous sommes de la nature et qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose extérieur à nous, ça me paraît indispensable. Et du coup, il faut le faire individuellement chacun, en trouvant le territoire dans lequel on peut le faire.
Je trouve assez formidable aussi, parce que moi, ça me parle très très vite, mais il y avait cette femme, il y a une quarantaine d'années, donc qui était Émilie Carle, et qui avait écrit La soupe aux herbes sauvages. Elle habitait à Val-des-Prés, donc une formidable institutrice, et qui a fait découvrir pour la première fois donc cette vallée. Et déjà, elle disait que c'était une vallée, heureusement, qui n'était pas silencieuse. Et vous le rappelez, c'est-à-dire que le silence ne s'est pas alourdi. Ça veut dire par là qu'il y a encore des clochers, qu'il y a encore des moteurs de tracteurs, il y a encore de la vie agricole.
Voilà, et effectivement,
et quotidienne, tout simplement. Ouais.
Et c'est pour ça que le propos de mon livre, en fait, il est un peu universel, c'est-à-dire qu'on a un enjeu à réhabiter un environnement rural, à réconcilier aussi dans le milieu rural ce que l'on appelle les néo-ruraux avec ceux qui n'ont peut-être pas choisi par le cœur le fait d'habiter ces territoires, et du coup de faire revivre ces territoires. Moi, je constate à la fois avec l'ensemble des titres dont je m'occupe au sein du groupe Bayard, hein, tu citais tout à l'heure Alpes Magazine, Bretagne Magazine, Pyrénées Magazine, en fait, dans ces titres-là, depuis plus de 30 ans, on raconte combien s'inventent dans les milieux ruraux, des modèles, des schémas de résilience aussi, des schémas sociaux, des schémas économiques, qui sont des schémas qui sont sans doute des clés pour inventer cet autre monde dont je parlais tout à l'heure.
Alain Grandjean, les citoyens dans l'affaire, ça c'est quand même extrêmement important, ça va vous rejoindre donc aussi tous les trois. Quand on voit par exemple qu'aux Pays-Bas, il n'y a pas longtemps, en 2017, on a eu une très belle surprise, parce que de là est parti le premier recours climatique des citoyens face à un État. Et ça a donné donc après, chez nous, donc l'affaire du siècle. Quel est le rôle des citoyens? À la fois, vous parlez très bien des contradictions budgétaires dans lesquelles nous sommes, ce dogme absolument incroyable, donc du fameux 3%, etc., où on sont arc-boutés, donc tous nos technocrates, sur lesquels sont arc-boutés nos technocrates, mais le rôle du citoyen?
Le rôle du citoyen en démocratie, il est fondamental. On voit bien ce qui s'est passé avec les élections européennes, notamment le citoyen jeune. Donc plus le politique entend que les jeunes se mobilisent très activement et ne supportent plus l'idée du business as usual, comme on dit, qui va nous mettre tous dans le mur, plus les politiques sont obligés de se bouger, et donc c'est utile aujourd'hui de leur donner des moyens de raisonner un peu autrement. C'est ça le but du livre. Deuxièmement, les citoyens jeunes ou moins jeunes ont tous des leviers d'action individuels. Donc j'ai pas dit tout à l'heure qu'il fallait pas que des citoyens et les ménages changent leur comportement et leur mode de consommation. Bien sûr qu'il faut qu'ils le fassent. J'ai juste dit il y a des choses plus difficiles que d'autres à faire, notamment quand il s'agit de dépenser beaucoup d'argent, parce qu'on a une très grosse fracture sociale en France, on a une très grosse fracture territoriale, et donc c'est ce mouvement-là qu'il faut prendre en considération. Sinon, j'ai très peur, mais vraiment très très peur, que les choses aillent très très mal politiquement pour l'ensemble de nos citoyens, de nos concitoyens.
Est-ce qu'aujourd'hui, Yvan Saint-Jour et donc Pablo Servigne, est-ce qu'on passera de nouveau, ça a déjà commencé, hein, par la désobéissance civile, cher Henri-David Thoreau, on a vu de la résistance à l'agression publicitaire il y a déjà quelques années, au fauchage des OGM en 2003, c'est aussi tout ça, c'est-à-dire qu'en même temps, l'espoir, oui, c'est ce qu'on disait, c'est peut-être très très bien, mais ça stagne un petit peu, et on sait qu'il n'y a pas d'espoir forcément sans combat. Donc, comment vous le voyez, ça?
Pour nous, c'est très important, cet aspect-là. Donc, dans ce numéro 1, d'ailleurs, on a un article assez conséquent sur la désobéissance civile. L'idée, c'est de rappeler qu'est-ce que c'est que la désobéissance civile et comment est-ce qu'on peut la mettre en pratique. Qu'est-ce que dans l'histoire, déjà, dans l'histoire en France, qu'est-ce qui s'est passé? On se souvient très peu ou alors trop peu des 10 ans de lutte, par exemple, sur le plateau du Larzac, qui ont été un moment incroyable en Europe au niveau de la désobéissance civile.
Et là, ils recommencent actuellement parce qu'ils ont, je crois, 400 hectares de panneaux solaires qui risquent d'arriver. Donc,
oui, en général, sur le Larzac, ils sont très, très...
Ils sont chauds.
Ils sont, voilà,
ils sont très chauds tout le temps. Il y a la Bretagne, ils sont chauds.
Voilà, c'est ça.
Larzac, ils sont chauds. Il y a des hotspots. Voilà, il y a des hotspots de...
C'est ça, mais je pense que la désobéissance civile, on a vraiment... intérêt aujourd'hui à retourner un petit peu aux sources, à voir quels sont les moyens d'action directes, non violentes, qu'on peut mettre en place, parce que en face, les bulldozers sont très gros et très nombreux.
Alors, comment, Pablo Servigne, avoir le désir ardent de prendre soin quand même de tout ce qui vit, à condition que l'équilibre soit respecté? Je veux dire que si vous claquez un moustique, bon, voilà, peut-être que les antispécistes vont gueuler, mais enfin, peu importe. Mais face à une société donc récente qui est thermo-industrielle, comment on fait?
Je recommence
doucement, je vais faire plus simple. Comment prendre le désir de
rester au moustique?
Oui, rester au moustique. Moi, j'ai fait une digression sur le moustique. Le désir quand même de prendre soin de ce qui vit, parce que c'est quand même aussi une des clés. C'est renouer avec le vivant. Enfin, c'est le thème de cette émission d'ailleurs en général.
Oui, c'est que c'est en fait les luttes sont nécessaires et on se fatigue beaucoup. Il y a une éco-psychologue qui s'appelle Joanna Macy aux États-Unis. Macy, c'est pas le Messi évidemment. Non. Et elle a près de 80 ans, c'est une dame incroyable et qui a vu dans les premières luttes antinucléaires aux États-Unis dans les années 70-80 et qui a vu que les activistes étaient mais détruits, ils avaient des burn-out, ils étaient vraiment, c'est une lutte très dure. Et donc elle a pris soin aussi des activistes et prendre soin de soi, comme disait Eric, de faire le lien entre nous, notre écologie intérieure, les humains, les non-humains, tout ça, ça fait partie de la même... Voilà, du même élan. Et ça permet de rester actif, de rester debout sur les barricades aussi. Prendre soin de la nature et défendre la vie, c'est pas du tout en opposition.
Ce qu'essayent de faire d'ailleurs des gens à Clamart qui nous ont laissé ce message, 01 56 40 40 35.
Bonjour Denis, bonjour l'équipe de CO2 Mon Amour. Je m'appelle Guillaume, je suis président de l'association des dérailleurs de Clamart. Voilà, on souhaite inviter tous ceux qui connaissent et qui aiment la forêt de Clamart à venir manifester avec nous le samedi 29 juin prochain pour la préservation de cet îlot de verdure dans les Hauts-de-Seine. Cette forêt, elle est menacée, elle est mise en danger par un projet routier du maire de Clamart et du département des Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, on sait que on doit apaiser la circulation automobile sur la départementale qui traverse cette forêt. On va mettre en circulation un tramway en 2022, le T10. Et il y aura aussi une piste cyclable qui longera les voies du tram sur l'ensemble du parcours. Ce projet a été validé par l'ensemble des acteurs territoriaux en 2016. Or, on a appris que le maire de Clamart, Jean-Didier Berger, avait souhaité ajouter une voie de circulation supplémentaire pour les voitures, sans demander l'avis de quiconque à Clamart. Et pour ce faire, il doit défricher, il doit déboiser 3000 m² de forêt. Pour nos trois associations clamartoises, c'est un scandale énorme et cela va à l'encontre du sens de notre action de développer les mobilités alternatives à la voiture. Donc, si vous souhaitez vous opposer à ce projet, on vous propose de venir samedi 29 juin à Clamart à 10h du matin pour une marche appelant à préserver le poumon vert des Hauts-de-Seine. Merci, à bientôt.
Respirez, ouvrez vos chakras, si j'ose dire, mais surtout votre pensée. C'est la suite de CO2, mon amour, sur France Inter. Ah, Bruce, très bien, monsieur.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain.
sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town, those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay?
Hello Sunshine, Bruce Springsteen. Ben ouais, toujours en forme, superbe. Hein. Donc cet album, j'en pense une porte ouverte, mais quand même, ça fait sacrément du bien. Alain Grandjean, Pablo Servigne, Yvan Saint-Jour, Éric de Kermel, Alain Grandjean, je reviens quand même aussi sur Agir sans attendre. Agir sans attendre, on se dit, bah c'est compliqué, c'est toujours une usine à gaz qui réchauffe d'ailleurs l'atmosphère. Mais en fait, il est possible de changer profondément la donne sans avoir à casser les traités européens.
Oui, parce qu'en fait, il y a les traités qui disent des choses, et puis ensuite, il y a l'interprétation des traités qui se fait au fur et à mesure et qui se négocie entre les pays européens. En fait, c'est comme ça que ça se passe, depuis toujours. Et donc là, aujourd'hui, en l'occurrence, sur ces questions de déficit et de dette et d'intégration dans le raisonnement économique fondamental de nos enjeux d'écologie, on peut faire comme ça a été fait après la crise financière de 2007-2008. Évidemment qu'ils ont interprété les traités, évidemment que les déficits publics ont été très supérieurs à la règle stricte, et évidemment qu'il fallait faire attention pour éviter l'effondrement bancaire. Bon. Alors, grosso modo, c'est la même idée. C'est aujourd'hui, on met ce sujet qui est un sujet commun européen. Je pense que même si nos amis polonais, nos amis allemands ont un peu de mal avec le charbon, globalement, l'ensemble des pays européens ont bien compris qu'il fallait se dépêcher pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Donc c'est un commun, c'est un point d'accord entre tous, c'est très haut dans les traités européens. Donc la discussion qui consiste à dire maintenant, pays par pays, les pays qui doivent aller plus vite maintenant en matière d'investissement dans le sens de la lutte contre le changement climatique, je pense que c'est tout à fait audible et c'est possible. C'est une question de négociation avec la Commission européenne et au sein de l'ensemble des pays de l'Union.
Ramener la finance et les marchés sur Terre dans une logique de temps qui est totalement contradictoire entre l'environnement et la finance, est-ce possible ?
Bien sûr que c'est possible. On a réussi à libérer la finance de manière extraordinaire, j'allais dire extravagante, totalement extravagante. Depuis 40 ans, il n'y a pas de raison, c'est pas une loi de nature. Et c'est pas non plus une loi de la nature que les puissances doivent être laissées à elles-mêmes. C'est tout à fait une question de volonté politique. Et je redis, on est en démocratie. On a des mouvements citoyens qui perçoivent qu'il est hors de question de rester dans des bonnes conditions conventionnelles en matière de dette publique et dans de très mauvaises conditions de vie, puisque quand même la fin de l'histoire, c'est la vie. Il n'y aura pas d'économie, il n'y aura pas de finances si on est tous incapables de survivre.
Mais ça, on commence à s'en rendre compte.
Je crois.
Hein, ça commence quand ça commence doucement.
Ça commence à savoir.
Voilà, ça commence à savoir. Ils n'ont pas lu forcément les livres de Pablo Servigne, donc sur l'effondrement, une autre fin du monde est possible, mais ça viendra peut-être.
Beaucoup, alors... beaucoup de littérature scientifique sur ce sujet-là, et qui est relativement connue quand même.
Ah oui, donc même depuis l'époque de Nicolas Stern, quand il était grand argentier aussi, ça les avait un petit peu secoués. Alors dans vos rêves les plus fous, vous dites que le ministère de la Transition doit se trouver à Bercy et subordonner la direction du budget à ce ministère. Bon là, vous...
Non, c'est pas des rêves les plus fous. Je pense qu'il y a un vrai changement de paradigme à mettre en œuvre. Il ne sera pas sans grand changement d'organisation administrative et politique. Je vais pas faire la pub pour Monsieur Macron, mais quand il dit je crée un conseil de défense écologique, il dit quelque chose qui est dit, oulala, ces sujets-là, il va falloir, comme les questions militaires,
bien les prendre,
s'en occuper sérieusement et de manière intergouvernementale. Pas quelque chose que Nicolas Hulot a réussi à faire quand il était ministre.
Non, mais c'était une de ses idées, une de ses envies.
Oui, donc il y a des choses qui bougent, et je redis, c'est pas que de l'opportunisme politique, il y a vraiment un problème de fond. Tout le monde comprend bien que nos sujets sont transversaux, nos sujets peuvent pas être traités à la marge, nos sujets peuvent pas être des questions d'arbitrage budgétaire. On peut pas passer notre temps à dire on va ratiboiser les dépenses du ministère de l'Environnement. Ça ne marche pas.
Pablo Servigne, nos issues, donc nos possibles aujourd'hui, dans un monde certes qui se restreint parce qu'on va avoir des suites d'effondrement. Enfin, faut pas s'imaginer, mais ça va être le grand soir, ça va tomber d'un coup. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais il va y avoir effectivement des suites d'effondrement. On voit déjà celui des oiseaux, celui des insectes, etc. Celui de l'humus aussi.
Des cultures, des classes sociales, voilà. Des secteurs d'activité. Moi, quand j'entends Alain, je me demandais, est-ce qu'on pourrait pas aussi pousser pour désinvestir? Désinvestissement dans toutes les énergies fossiles. Il y a beaucoup de banques qui soutiennent plein de choses.
Bien évidemment, il faut désinvestir et c'est clair que c'est une des priorités, sortir des fossiles. Le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre la fin du désinvestissement pour relancer les autres investissements. Il faut que les gens vivent dans des conditions dignes. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas possible de laisser les gens vivre dans des taudis, dans des passoires thermiques. Et donc, désinvestir des chaudières, oui, c'est certes, il y a 4 millions de chaudières à fioul en France. Donc, il va bien falloir réinvestir dans d'autres moyens.
Il y a vraiment une question d'égalité sociale, parce qu'il y a déjà des gens qui vivent un effondrement. Mais ici, en France, et dans beaucoup de pays, dans beaucoup de peuples, voilà. Donc, et d'animaux, de plantes, d'écosystèmes qui sont déjà dans ces cas-là. On n'est pas en train de parler que du futur, là.
On est vraiment... C'est pour ça que depuis des années, on dit dans cette émission que l'environnement doit être pas et la première des chances sociales, parce que sinon ça ne fonctionne pas si on s'intéresse qu'uniquement aux petites plantes d'un côté et pas évidemment aux humains de l'autre. Écoutez la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe. Cher Hegel, merci beaucoup d'avoir écrit cette phrase, mais c'est aussi un peu le but de Yggdrasil.
Ouais, c'est toujours continuer à écouter, comme on dit, le vacarme de la forêt qui est détruite à coups de bulldozer, mais tendre l'oreille, et il y a énormément de jeunes pousses, énormément d'alternatives, de choses qui se passent partout. Et nous, ce qu'on voulait, c'est mettre les projecteurs là-dessus.
Et fédérer les gens qui agissent.
Et fédérer, mais au-delà des étiquettes. Souvent, on est coincé dans des étiquettes gauche-droite, survivaliste, bisounours, etc., zadiste, je sais pas quoi. Et on s'enferme dans des étiquettes. Voilà, donc l'idée, c'est de fédérer.
Et de fédérer. Yvan Saint-Jour, donc le plaisir de ce nouvel Yggdrasil.
Le plaisir, bah déjà le plaisir de le tenir en main, serait-ce que ça.
Parce c'est un MOOC, comme on dit.
Voilà, c'est un MOOC imprimé sur un papier recyclé qu'on a cherché, mais alors vraiment de façon incroyable, parce que le papier recyclé s'est effondré en France, donc on l'a fait venir d'un petit peu loin, mais voilà, il est magnifique.
J'ai besoin aussi de nouveau d'une part de féminité, elle est très forte avec vous Éric de Kermel, avec donc votre ouvrage s'il vous plaît.
Ouais, je crois que d'autres ont dit avant moi que la femme était l'avenir de l'homme. Je crois qu'en matière d'écologie, c'est encore plus vrai. Ouais. C'était un des propos un peu fondamentaux de Pierre Rabhi. Et effectivement, moi j'ai voulu écrire ce livre féminin. Je veux dire, la première des écolos que j'ai connue, c'était ma mère. Aujourd'hui, j'ai 3 filles. Et je pense que en appelant, je veux dire, cette part féminine, c'est pas seulement appeler les femmes, c'est aussi appeler les hommes à explorer cette part féminine. On l'a tous. Elle est indispensable parce que si on ne fait appel qu'à nos, je veux dire, qu'à ces grandes caractéristiques masculines de la force, de la puissance, etc., et qu'on n'écoute pas l'intuition, la sensibilité, on ne résoudra pas l'enjeu écologique et la conversion écologique.
Eh bien, écoutez, un grand merci à vous donc d'avoir participé à cette dernière, à cet horaire, donc entre 14h et 15h sur France Inter. Donc, Mon cœur contre la terre aux éditions Erol, Agir sans attendre aux éditions donc Les liens qui libèrent, et puis donc Yggdrasil qui sort là. véritablement. Moi, je rajoute aussi La Nature et nous. C'est l'excellent Zadig numéro 2, Toutes les Frances qui racontent la France avec Sylvain Tesson, avec Michel Serres et aussi quand même dans Yggdrasil, vous avez un très bel entretien avec Edgar Morin que vous avez bien sûr rencontré. Merci Alexandre Chenet. On a préparé l'émission avec Camille Blanès, Jérôme Boulet et donc on se retrouvera le dimanche 1er septembre à 13h20.